Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée. Les vacances sont finies. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là, mais pour tous, petits et grands, le mois de septembre charrie avec lui ce genre de souvenirs. When you smile, il y a à la fois kitsch et nostalgique, c'est bien la BO de la Boom de Vladimir Cosma avec Sophie Marceau en 1982. Merci à Olivier Bétard qui a accepté de diffuser ce son, il fallait le faire. Ça vous rappelle des souvenirs, Stanislas Dehaene ?
Un peu, bien sûr, comme nous tous.
Hein ? C'est quand même fou, ça, c'est la manière qu'a une image, un film de charrie, un imaginaire assez commun tout à pays.
Mais Proust l'avait déjà dit, mais ce qui est vrai, c'est que dans l'enfance, ça s'imprime encore plus. Et chaque journée, pratiquement, est un apprentissage particulier pour les petits-enfants.
Vous vous présentez, Stanislas Dehaene, enfin, quand on vous a demandé comment vous présenter, vous avez dit « Je suis un neuroscientifique qui fait des expériences sur des enfants et des adultes ». Ça fait un peu peur, dit comme ça.
Bon, j'espère que ça ne fait plus peur. Maintenant, tout le monde sait que le cerveau humain est un immense défi. On essaie de comprendre le cerveau humain. Et ça veut dire parfois simplement faire des expériences de psychologie, étudier leur comportement. Mais de plus en plus, utiliser des outils modernes comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, ou bien l'électroencéphalographie. Vous savez, simplement enregistrer les potentiels qui sont évoqués, donc les petites différences de voltage à la surface du cerveau, à la surface du scalp, pardon, donc simplement de façon très non invasive. Tout ceci se fait maintenant très facilement chez l'enfant comme chez l'adulte et nous donne accès quand même à des connaissances croissantes sur la manière dont cet organe fonctionne et comment il fait pour apprendre en particulier.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Les neurones de la lecture en 2007, La bosse des maths en 2010, Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe en 2012, Le code de la conscience en 2014. Et vous êtes avec nous en studio ce matin pour commencer cette série sur une autre école, enfin plutôt pour une autre école, on assume cette position, parce que justement vos recherches sur le cerveau vous permettent d'établir certains résultats qui ne seraient pas forcément tout à fait cohérents avec la méthode éducative telle qu'elle a lieu à l'école en France aujourd'hui.
Oui, absolument, parce que je pense qu'on a sous-estimé, et c'est une constante à travers l'étude du développement de l'enfant, on a sous-estimé les compétences très précoces des enfants et on a également sous-estimé leur extraordinaire potentiel d'apprentissage. Donc, s'il fallait créer une nouvelle école, ce serait une école dans laquelle on prendrait plus au sérieux le point de départ des enfants, c'est-à-dire les compétences qu'ils ont, par exemple dans le domaine des nombres ou dans le domaine du langage, et on serait capable aussi d'enrichir la stimulation qui lui est fournie, parce que on sait que l'algorithme d'apprentissage qui est présent dans nos cerveaux dans les petites années, dans les jeunes années, est extraordinairement puissant. Et malheureusement, on sait aussi que, alors que les années passent, en particulier autour de la puberté, cet algorithme va baisser en capacité, surtout pour les langues. Et donc, il y a vraiment matière là à réfléchir à ce que notre école pourrait être si elle était encore mieux adaptée au cerveau de l'enfant.
Vous parlez d'un algorithme d'apprentissage ?
Oui, vous savez qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup aux algorithmes d'apprentissage parce qu'on commence à pouvoir les implémenter dans des ordinateurs. Donc, on a des machines qui apprennent, on parle de cet immense domaine de machine learning en anglais, mais jusqu'à présent, aucune de ces machines ne s'approche de la capacité du cerveau. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes particuliers. Par exemple, vous savez qu'on a réussi à faire un algorithme qui joue au jeu de Go maintenant, et c'est une très grande prouesse, je pense, de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre des langues, par exemple, eh bien, on peut montrer que ces algorithmes ne font pas aussi bien que ce que notre cerveau est capable de réaliser. Et une des très grandes limites, c'est qu'il leur faut beaucoup plus de données qu'un petit enfant. C'est-à-dire qu'un petit enfant arrive à extraire une quantité d'informations d'un petit nombre de stimulations qui est absolument extraordinaire. Certains mots que l'on va dire à l'enfant, qui sont de basse fréquence, qui sont rares, on va les entendre une fois, deux fois, peut-être trois fois. Et c'est tout. Et ils sont 1 million de fois moins fréquents que d'autres mots comme pensée ou je, nous, qui sont des mots très familiers. Eh bien, le cerveau de l'enfant va être capable d'extraire ces informations de façon extraordinairement efficace. Et certains aspects de cet algorithme ne sont pas encore bien connus, mais je pense sont déjà très très importants pour les parents et pour l'enseignement en général. Par exemple, on s'est aperçu que cet algorithme d'apprentissage ne tourne pas seulement pendant qu'on est en classe. Évidemment, l'heure de classe est très importante, il faut que l'enfant fasse attention. Bon. Mais après la classe, le cerveau continue de tourner. Et pendant la nuit qui suit, on s'est aperçu que les enfants font tourner un algorithme d'apprentissage 3 fois plus efficace que celui des adultes. C'est-à-dire que le cerveau se répète ce qu'il a entendu pendant la journée, et on a l'impression de ne rien faire, de dormir, on n'en est pas conscient. Il est clair qu'il y a énormément de traitements non conscients dans le cerveau, mais ces traitements non conscients vont rejouer cet épisode de la journée, vont rejouer ce qui était important d'ailleurs, pas ce qui était distrayant, et vont mettre en place des circuits supplémentaires pour consolider cet apprentissage, déplacer l'apprentissage aussi dans le cortex où il va devenir plus permanent, une sorte de partie intégrante de nous-mêmes, ce qu'on appelle la mémoire sémantique.
Donc plus nous vieillissons, moins nous apprenons.
Je dirais pas ça, mais disons que nos capacités d'apprentissage sont moindres. Bien sûr que nous pouvons encore apprendre du vocabulaire, par exemple. D'ailleurs, tous les circuits ne sont pas égaux de ce point de vue-là. Et ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas très bien. Il y a certains circuits, comme par exemple les circuits de l'écoute des sons du langage, qui se figent très précocement. Et donc, si vous n'êtes pas exposé au son, je ne sais pas, du chinois, par exemple, au ton montant, descendant, qui sont utilisés en chinois, eh bien, il faut être exposé dans les premières années de vie pour que votre cerveau les enregistre. Après, vous ne les entendez plus, on est sourd, tout simplement, à certains paramètres. Vous savez que les Japonais sont sourds à la distinction entre un L et un R. R
voilà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent physiquement, biologiquement, cérébralement, pas entendre la distinction
ils
entre L
pas.
Et le R.
Pour eux, c'est la même chose. Mais ça paraît exotique, mais si vous écoutez quelqu'un parler en Inde, il y a des te qui sont très différents pour les personnes qui parlent ces langues indiennes, mais qui pour nous sont rigoureusement identiques. Donc notre cerveau perd progressivement la capacité de faire des discriminations. Ce qui va de pair avec ce que je disais au début, c'est-à-dire que les enfants sont vraiment d'une compétence particulièrement extraordinaire pour apprendre toutes les langues possibles. Et les enfants qui sont bilingues ont des bénéfices tout à fait nets, mais pour eux, ça n'est pas un apprentissage difficile, vous voyez, ça n'est pas un effort. Apprendre une langue pour nous à l'âge adulte, c'est vraiment un effort particulier. Pour eux, non, ils vont absorber en quelque sorte assez facilement ce qui se passe autour d'eux.
Alors, on va prendre 2 exemples avec vous, Stanislas Dehaene, pour essayer de comprendre votre approche scientifique de ce sujet, et puis une approche, disons, peut-être plus littéraire, plus fictionnée, mais qui met en scène exactement le même processus, à savoir comment un bébé et un enfant apprennent-ils à parler et à lire. Donc voici d'abord un extrait bien d'une forme de documentaire sur votre projet de recherche de Neurospin, le laboratoire où vous travaillez. On va entendre comment un bébé de 8 mois, la petite Capucine, vous sert de cobaye pour essayer d'arriver à comprendre ce qui se passe dans son cerveau quand elle apprend à parler. Et puis ensuite un extrait, allez, je vous dis rien, vous le découvrez, vous le reconnaîtrez sans doute.
Aujourd'hui, c'est Capucine qui va se prêter au jeu de l'expérimentation. Capucine est âgée de 8 mois et sans qu'elle le sache, ses capacités à reconnaître les sons de la langue française intéressent vivement les scientifiques. L'activité de son cerveau va être enregistrée par électroencéphalographie grâce à des capteurs disposés sur un filet. Certaines syllabes prononcées par les personnages ne correspondent pas à la forme que fait leur bouche. Le cerveau d'un bébé peut-il s'en apercevoir ? L'expérience réalisée sur des dizaines de bébés montre qu'ils ont tous acquis assez de connaissances de la prononciation de la langue pour détecter cette anomalie. C'est le signe qu'ils font déjà la relation entre les voyelles et la forme de la bouche qui les prononce.
Un beau matin,
oh, mon beau galama.
Ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire. Tandis que mon père...
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit qu'on t'avait puni?
C'est écrit là.
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Voyons, voyons, mais... Et puis on lit.
la ma ma a pu ni. C'est un petit garçon qui n'était pas sage. Ça veut dire que tu m'aimes bien.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h11, c'est le premier temps de notre série sur une autre école. Une autre école est-elle possible? C'est la question que je poserai à mes invités chaque jour de cette semaine. Et aujourd'hui, mon invité est Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Les deux extraits que l'on vient d'entendre sont à leur façon deux manières de montrer comment l'apprentissage a lieu. Le premier, donc, qui vient de votre laboratoire Neurospin, où la petite Capucine fait l'expérience de différentes images qu'on lui fait passer devant les yeux avec des sons qui sont parfois déconnectés de ce qu'elle voit, histoire de voir ce qui se passe dans son cerveau. Et l'autre extrait, c'était Marcel Pagnol, La gloire de mon père, ici dans l'adaptation du film d'Yves Robert, où le petit narrateur, Marcel, donc, va passer des mois sur le banc de l'école, puisque son père est instituteur. Celui-ci, le père, apprend à lire aux enfants qui sont en âge de lire, et lui, eh bien, peut-être l'habitude aidant, ou la pratique inconsciente aidant, il va apprendre à lire à la plus grande surprise de son père.
J'aime beaucoup ce lien que vous faites entre ces deux extraits, parce qu'effectivement, d'abord, les enfants sont extraordinairement compétents dans la première année de vie, et notamment sur le plan phonologique, c'est-à-dire que leur cerveau comprend déjà des structures qui vont s'intéresser à la prononciation des sons de la langue, qui vont les différencier, et ce qui est remarquable, c'est qu'on sait que c'est un précurseur de la lecture. C'est-à-dire que lorsque vous apprenez à lire, vous allez en fait recycler, c'est le terme que j'utilise, les circuits neuronaux qui vous servent à discriminer les phonèmes, mais vous allez les adresser avec une entrée complètement nouvelle, qui est une entrée écrite, la forme des lettres, qui est une entrée arbitraire, culturelle, une invention de l'humanité. Et effectivement, on montre que on peut prédire le succès de l'apprentissage de la lecture si l'on mesure, entre autres, la capacité de discrimination des phonèmes de l'enfant. C'est un excellent prédicteur de la lecture. Et on sait que si l'on enrichit la maternelle, ou même avant, les expériences des enfants dans le domaine de la phonologie, c'est-à-dire qu'on va les faire jouer avec des mots parlés, on va les faire jouer avec les rimes, vous savez, tout ce qui est nursery rhymes, les rimes qu'on utilise en famille ou dans les petites classes, eh bien, ça va préparer l'enfant à la lecture, et les enfants qui auront bénéficié de cet environnement vont apprendre plus vite à lire, plus facilement. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et notamment le vocabulaire de l'enfant. C'est très important de pouvoir enrichir leur vocabulaire, et ça, on ne le dira jamais assez. Je pense que beaucoup de parents le savent, mais tout de même, il faut parler à ses enfants. Plus on parle à ses enfants, plus on enrichit leur vocabulaire, plus on prépare leur cerveau, bien sûr au langage parlé, mais surtout ensuite à l'apprentissage de la lecture.
Vous allez, oui, allez-y.
Oui, juste pour terminer, parce que cet extrait pose la question de savoir est-ce qu'un enfant peut apprendre à lire bien plus tôt que l'école finalement. Et la réponse est oui, bien sûr. Il y a des enfants qui sont prêts bien avant. Il y en a certains qui, alors on dit, découvrent eux-mêmes la lecture. Je suis un peu sceptique. Je pense qu'ils ont autour d'eux suffisamment d'expérience, de certains adultes qui leur montrent au moins le début de la lecture, et puis effectivement le cerveau de l'enfant fait le reste. Mais on a montré au laboratoire en particulier que si on scannait des enfants qui ont appris à lire avant le CP, donc un an ou plus à l'avance, hein, et certains de ces enfants faisaient partie de la fameuse classe de Céline Alvarez dont on parlera peut-être, qui avait c'est une enseignante qui avait créé une école Montessori, en tout cas une maternelle Montessori, qui avait permis à des enfants de banlieue, de ZEP, de zone d'éducation prioritaire, d'apprendre à lire et à calculer dès la maternelle, en fait. Eh bien, donc on a inclus certains de ces enfants, plus d'autres qui avaient appris à lire spontanément dans notre étude, et on voit que leur cerveau est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désorganisation, il n'y a pas de risque particulier lié au fait d'apprendre à lire plus tôt. Il y a simplement un cerveau qui a bénéficié d'expériences précoces, en quelque sorte. Et je pense qu'on peut vraiment enrichir notre école et mieux stimuler les enfants pour les faire progresser plus vite.
Donc les inégalités que nous nous constatons entre les écarts d'apprentissage à parler, à lire d'un bébé à l'autre, ce que vous dites, c'est que c'est pas d'origine cérébrale ou neurologique, c'est une différence de sollicitation ou d'expérimentation.
Oui, alors évidemment, toute différence de sollicitation se traduit dans le cerveau. Donc, ce sont des différences biologiques.
Les cerveaux sont égaux.
Alors non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça également. Oui. Il y a évidemment des prédispositions plus ou moins grandes, et même dans le domaine de la lecture. Donc, on sait qu'il existe des gènes, on en connaît 4 actuellement, qui prédisposent à la dyslexie. Mais ça n'est pas une sanction certaine, pas du tout. C'est une petite augmentation de la probabilité de devenir dyslexique, qui elle-même peut être compensée par une meilleure stimulation de l'environnement. Donc, l'environnement et la génétique jouent des rôles presque égaux, je dirais. J'ai un ami qui dit toujours cette phrase que j'aime bien, il dit « Dans le débat sur l'inné et l'acquis, on a sous-estimé les deux ». Et je crois que c'est vrai, c'est 100% d'inné, 100% d'acquis. On ne peut pas démarrer avec un cerveau qui n'est pas structuré, il l'est chez tous les enfants. Et même s'il y a des petites anomalies, elles peuvent être surmontées par le pouvoir de l'éducation qui est extraordinairement fort. Voilà, donc nous pouvons, je crois, intervenir, et personnellement, moi je ne verrais pas d'inconvénient à ce que on stimule les enfants plus précocement dans le domaine de la lecture. Souvent, la grande section de maternelle, c'est un peu ambigu. Les enseignants introduisent beaucoup de phonologie, parce que c'est ce qu'on leur demande, donc des jeux avec les mots, les phonèmes, disséquer les syllabes, mais ils n'osent pas introduire des lettres. Et pour certains enfants, il faudrait introduire les lettres à cet âge-là. Il ne faut pas hésiter. Et si les enfants sont prêts, je pense qu'on peut y aller sans aucune arrière-pensée.
Vous allez jusqu'à dire que le bébé est une machine à apprendre, dès lors que le cerveau contient dès la naissance un algorithme d'apprentissage statistique extrêmement sophistiqué, ce qui implique beaucoup de présupposés. Ça tombe bien, on a encore une quarantaine de minutes pour en parler ensemble, Stanislas Dehaene. Je vous propose qu'on commence avec un premier aspect. L'équivalence entre le cerveau et la machine, entre le cerveau et l'ordinateur, entre le cerveau et quelque chose, disons, de plus artificiel. Cette équivalence, elle a été formulée par Descartes il y a bien longtemps. Il a ouvert une brèche dans laquelle beaucoup d'intellectuels et de scientifiques se sont engouffrés ensuite, pour le meilleur et pour le pire. Et cette comparaison reste choquante à bien des titres pour beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, écoutons ce texte de Descartes où il semble comparer l'homme à la machine, et puis vous nous direz ensuite où vous vous situez, Stanislas Dehaene.
Je désire que vous considériez que toutes les fonctions que j'ai attribuées à cette machine, comme la digestion des viandes, le battement du cœur et des artères, la nourriture et la croissance des membres, la respiration, la veille et le sommeil, la réception de la lumière, des sons, des odeurs, des goûts, de la chaleur et de telles autres qualités dans les organes des sens extérieurs, l'impression de leurs idées dans l'organe du sens commun et de l'imagination, la rétention ou l'empreinte de ces idées dans la mémoire, les mouvements intérieurs des appétits et des passions, et enfin les mouvements extérieurs de tous les membres qui suivent si à propos tant des actions des objets qui se présentent au sens que des passions et des impressions qui se rencontrent dans la mémoire. Qu'ils imitent le plus parfaitement qu'il est possible ceux d'un vrai homme. Je désire, dis-je, que vous considériez que ces fonctions suivent tout naturellement en cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues. En sorte qu'il ne faut point, à leur occasion, concevoir en elles aucune autre âme végétative ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvement et de vie que son sang et ses esprits agités par la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son cœur, et qui n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans les corps inanimés.
L'homme est une machine en bien des sens, c'est Descartes qui le dit sur France Culture dans un extrait du Traité de l'Homme interprété par la comédienne Anne Brissier. Dans votre ouvrage, Stanislas Dehaene, Le Code de la Conscience, vous reprenez, vous citez ce texte pour montrer que Descartes est le premier à avoir envisagé une mécanique nerveuse qui se suffise entièrement à elle-même, c'est-à-dire qui serait comme de subtils automates, nous dit Descartes. Est-ce que ça veut dire que votre approche scientifique, cognitiviste, neurobiologique du cerveau humain considère celui-ci comme une machine?
Je pense effectivement que Descartes était un extraordinaire précurseur de cette idée réductionniste, selon laquelle chacune de nos idées, et leur impression et aussi leur rétention en mémoire, sont liées à l'activité de notre cerveau. On comprend d'ailleurs en écoutant cet extrait que Descartes n'a pas osé publier son traité de l'homme avant sa mort, parce qu'il avait peur de la réaction de l'entourage et notamment de l'Église, bien entendu.
À juste titre, puisque les conséquences logiques du texte, c'est de ne reconnaître aucune existence à ce qu'il appelle l'âme immatérielle.
Ce qui est intéressant chez Descartes, c'est qu'il recule quand même, pour de bonnes raisons d'ailleurs, en bon scientifique, il dit bon, « une machine a un comportement déterministe et je ne vois pas comment les comportements humain, notamment lié à la production du langage, pourrait s'expliquer dans une telle machine. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une flexibilité extrêmement grande des comportements. Le canard de Vaucanson, on appuie sur le canard, il fait couac. C'est une machine qui répond à une certaine stimulation. Mais Descartes ne voyait pas comment la machine pouvait être aussi flexible que de générer des phrases ou des pensées complexes, combinatoires, sans finalement avoir une sorte d'âme. Donc il est resté ambigu sur cet aspect strictement humain. Il pensait que les humains étaient peut-être autre chose que des machines. Alors, il s'est passé quelque chose au XXe siècle qui nous a permis de dépasser cette idée-là, c'est l'arrivée de Alan Turing et quelques autres, von Neumann en particulier, qui ont montré que non, même des fonctions supérieures très élaborées, comme les mathématiques, par exemple, ou la génération de langage, c'est la contribution de Chomsky dans les années 50, pouvaient être issues de modèles formels et qui pouvaient se dérouler dans un ordinateur. Donc le concept d'informatique, c'est-à-dire de traitement de l'information, le mot français informatique est bien meilleur que computer science en anglais, c'est le traitement de l'information, c'est une idée révolutionnaire du XXe siècle. Que Descartes n'avait pas envisagé, je crois, et qui fait partie intégrante des sciences cognitives telles que je les pratique. C'est-à-dire l'idée que nous devons rechercher comment le cerveau traite les informations. C'est une machine, effectivement. Mais quand on dit le cerveau est une machine, c'est pas qu'on réduit le cerveau, je pense qu'on hausse la machine à des niveaux supérieurs. On n'a pas encore complètement compris jusqu'où le concept de machine peut aller.
Que la machine est supérieure à l'homme, en fait, c'est ça que vous voulez dire.
Peut être supérieure à l'homme, en tout cas peut atteindre les performances humaines. Je suis persuadé qu'elle le fera, elle est en train de le faire en ce moment. Mais Turing l'avait déjà vu. Donc Turing a fait une démonstration mathématique que sa machine, qui est d'une simplicité absolument déconcertante, pouvait démontrer toutes les vérités mathématiques qui étaient atteignables par un humain. En tout cas, c'est la thèse, ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing, qui n'est pas dépassée aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. On pense effectivement que les ordinateurs ont le même pouvoir calculatoire que le cerveau humain.
On en parlait vendredi dernier avec Catherine Malabou, qui est venue nous parler de son livre sur l'intelligence artificielle, justement, Catherine Malabou qui postule l'absence quasiment de différence entre un humain et un ordinateur ou une vie artificielle.
Alors cela dit, l'architecture n'est pas la même, donc il y a encore beaucoup de travail pour comprendre quel genre de machine est le cerveau humain. Ça n'est pas un ordinateur traditionnel, pas du tout. Et en particulier, il est capable de traitements parallèles, beaucoup plus efficaces que nos machines actuelles qui font une opération à la fois de façon très, très rigide et qui tirent leur puissance du fait que ces opérations élémentaires vont extrêmement vite. Dans le cerveau, c'est presque l'inverse. Les opérations élémentaires sont assez lentes, mais ils s'en produisent tellement en parallèle qu'il en résulte de l'intelligence. Alors c'est là qu'est la frontière en ce moment, d'essayer de comprendre comment une machine massivement parallèle, on parle de réseau de neurones, peut imiter le comportement collectif du cerveau. Ça commence, et lorsque vous avez par exemple la traduction automatique chez Google actuellement, qui a énormément progressé, eh bien elle est fondée en partie sur l'idée que chaque mot est représenté par une distribution d'activité, un vecteur d'activité à travers des milliers, voire des millions d'unités qui sont comme des neurones. Il faut penser que à chaque fois qu'on a une pensée, eh bien, c'est un patron d'activité. Certains neurones sont allumés, d'autres sont éteints, et c'est ce patron d'activité qui est le code. Voilà. L'information est codée par le nombre et la nature des neurones qui sont activés ou inhibés.
Alors, jusqu'où allez-vous dans ce réductionnisme ou dans ce matérialisme? Est-ce que vous pensez qu'une connaissance en droit intégrale ou totale d'un cerveau humain permet de tout expliquer sur l'individu?
Alors, connaître n'est peut-être pas la même chose qu'expliquer. Je pense que notre travail consiste à trouver des lois de passage. Effectivement, certains ont proposé qu'on scanne la totalité des neurones d'un individu. Malheureusement, ça ne suffit pas à comprendre. Ça suffit peut-être à voir les choses, mais comprendre, c'est plus que ça. C'est trouver des lois qui permettent de passer du niveau neuronal au niveau psychologique.
C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que reste-t-il dans ce cas, dans cette démarche-là, de ce qu'on appelle la conscience ?
Je pense que la conscience est un phénomène réel, mais biologique. Nous devons chercher des lois de passage depuis l'introspection que nous avons tous d'avoir une conscience, de prendre conscience d'un aspect du monde extérieur jusqu'à son implémentation biologique. Et ce n'est pas un passage complètement direct, et en particulier je ne crois pas qu'on puisse s'épargner un passage par la psychologie. Voilà. Donc, autant donné, je ne suis pas un réductionniste pur et dur, si on peut dire, qui voudrait qu'on passe directement au niveau de l'étude des synapses et que c'est là qu'on va
trouver
la solution.
Non, parce que vous observez autant les comportements que le cerveau.
En fait, on ne fait pas de bonne neuroscience si on n'étudie pas d'abord le comportement. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et donc, par exemple, dans le domaine du langage, lorsqu'on essaye de comprendre l'architecture du système de la lecture ou du traitement des phrases parlées, eh bien, en fait, on commence par la linguistique. Moi, je discute énormément avec des collègues linguistes. Je pense qu'ils ont trouvé des vérités à un certain niveau. C'est un petit peu comme les lois de Newton, si vous voulez, ou la loi des gaz parfaits. À un certain niveau, ce sont des vérités sur le comportement humain. Mais ensuite, lorsqu'on va descendre au niveau du mécanisme, on va trouver des lois supplémentaires qui sont un petit peu comme les lois de la physique quantique, disons, par rapport à la loi des gaz parfaits. Et il peut y avoir plusieurs niveaux de description, et je pense qu'il doit y avoir plusieurs niveaux de description du cerveau. Et tous sont pertinents pour comprendre ce que nous sommes. Lorsqu'on cherche à comprendre la psychiatrie, par exemple, il est essentiel de comprendre pourquoi un atome particulier, le lithium, peut avoir un effet tout à fait particulier sur le psychisme des personnes malades. Parce que, à travers tous ces niveaux d'organisation, cet atome, une molécule particulière, va avoir un effet sur un circuit qui lui-même va expliquer certains de nos comportements.
Est-ce que le danger, si on essaie d'appliquer cette méthode-là à un domaine éducatif, puisque c'est quand même le sujet aussi de cette émission, est-ce que le danger ne serait pas de proposer comme un modèle, ce qui est en fait, par définition, puisque c'est un modèle trop général, et de passer sous silence chaque cas particulier ? En clair, les résultats de votre travail sont-ils applicables tels quels, ou ne faut-il pas toujours renouer avec une observation du comportement qui vous est cher, mais auquel cas c'est impraticable. On peut pas faire ça avec chaque élève.
C'est pas impraticable, mais non, pas du tout. Mais effectivement, je suis un peu mal à l'aise lorsqu'on parle de l'application des neurosciences au ministère de l'Éducation. Non pas que je sois contre, mais je pense que c'est un peu réducteur, parce qu'en réalité, la science la plus importante dans ce domaine, c'est la science du comportement. Ce qu'on souhaite, c'est que les enfants progressent et qu'ils acquièrent des compétences, peu importe où ça se passe dans leur cerveau. Je suis pas persuadé que les enseignants doivent commencer à se transformer en neuroscientifiques qui sachent les localisations cérébrales, etc. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de lois d'apprentissage qui sont des phénomènes vraiment fondamentaux, qui sont vrais pour tous les apprentissages. Ce que j'ai appelé les piliers de l'apprentissage. Et je pense effectivement que là, il faut absolument que les enseignants les connaissent, parce que ça s'applique à énormément de domaines de la vie scolaire.
Dans votre ouvrage « Apprendre à lire hein, des sciences cognitives à la salle de classe », vous en citez quatre notamment des piliers, et on trouve l'attention, le retour d'information, la consolidation, et on en revient à ce qu'on disait, le passage de l'explicite à l'implicite, ce qu'on appelle donc, ce qu'on pourrait appeler la conscience. Et en fait, vous présentez ces quatre piliers. Là, pour le coup, c'est comme une méthode pour apprendre à lire.
Pour apprendre à lire, il y a des choses spécifiques qu'il faut ajouter, hein, absolument. Mais oui, je ne dis pas que c'est une méthode. Le mot m'ennuie un petit peu aussi, parce que il y a toujours.
D'ailleurs, vous ne l'employez pas. Hein, c'est
plusieurs méthodes. Oui, absolument. Et je trouve qu'on est bloqué en France en particulier sur ce mot. En réalité, ce qui compte, ce sont, disons, des caractéristiques. Ça ne forme pas une méthode. Il y a beaucoup de méthodes pédagogiques compatibles avec les idées qui sont issues des sciences cognitives. Mais oui, donc, si on revient sur ces phénomènes, d'abord, arriver à canaliser l'attention de l'enfant.
L'attention, ouais.
Être certain qu'il fasse attention au bon niveau. Et dans le cas de la lecture, c'est pas l'attention sur la globalité du mot, c'est l'attention sur la chaîne des lettres, de la gauche vers la droite. Ça veut dire qu'on l'apprend explicitement à l'enfant qu'on doit commencer à gauche et finir à droite. Ça va pas de soi.
Vous voyez, chose beaucoup d'enfants écrivent à l'envers, d'ailleurs.
Ouais. Oui, ou vont simplement pas comprendre que ça fonctionne de ce point de vue-là. D'ailleurs, une idée très abstraite que l'enfant arrive à comprendre. La correspondance entre l'espace du mot écrit et la temporalité du mot parlé. Vous vous rendez compte du degré d'abstraction de l'alphabet. C'est une idée, d'ailleurs, l'alphabet n'est pas venu tout seul. Donc l'enfant ne va pas le redécouvrir, et ça va beaucoup mieux si on lui explique explicitement comment ça doit se passer. Donc attention au bon niveau. Ensuite, il y a l'engagement actif. Ça, c'est très bien montré. Une classe passive dans laquelle on fait une lecture magistrale n'apprend pas bien. Il faut que l'enfant soit engagé, en train de prédire quelle va être la bonne réponse. Donc, actif, en train de se tester. Voyez. Et il y a plusieurs méthodes, là encore, pour le faire. Mais disons, engager l'activité de l'enfant. Troisièmement, avoir un bon retour d'information, c'est-à-dire que l'enfant sait s'il se trompe ou pas. Ça peut être l'enseignant qui lui dit, mais ça peut être aussi l'objet qui lui dit. Si vous êtes en train de construire une pyramide et la pyramide se casse la figure, ou si vous avez la tour rose Montessori, vous devez construire des cubes dans le bon ordre, 10, 9, 8, 7. S'il vous en manque un, il reste à la fin, il n'est pas de la bonne taille. L'objet lui-même vous donne un retour d'expérience. Donc je crois beaucoup, pour les mathématiques en particulier, à la manipulation des objets, parce que c'est en soi un retour d'expérience pour le cerveau. Et enfin, le dernier pilier de l'apprentissage, effectivement, consolider, c'est-à-dire ne pas se contenter d'une connaissance superficielle, mais réviser tous les jours, parce que l'apprentissage va se déplacer dans des circuits non conscients. On va libérer les ressources du cortex préfrontal pour de nouveaux apprentissages. C'est pour ça qu'il faut apprendre par cœur un certain nombre de choses, sans doute les tables arithmétiques, sans y passer sa vie, hein, mais enfin, il faut que ce soit automatisé pour pouvoir aller au-delà.
Mais ce qu'il y a d'absolument délirant quand on vous lit, quand on vous écoute, c'est de réaliser que ce qu'on essaie de transmettre à un jeune enfant est en fait le résultat d'une convention, d'un accord qui peut paraître arbitraire, l'alphabet, l'ordre, le sens de la lecture. D'ailleurs, c'est pas le cas dans toutes les cultures.
Absolument.
Comment est-ce que vous expliquez que, selon les cultures, on s'est tous mis d'accord au fil de l'évolution de l'espèce sur un alphabet, un ordre des lettres arbitraires, certaines formes de lettres? Est-ce que c'est celui qui correspondait le plus à notre cerveau? Ou est-ce qu'il y a une forme d'hérédité neurologique dont nous sommes tributaires aujourd'hui?
Ce que je montre dans le livre Les neurones de la lecture, c'est que la forme des lettres a évolué pour rester extrêmement efficace dans la reconnaissance par les aires visuelles de notre cerveau. Donc je pense, toujours dans cette idée de recyclage neuronal, nous devons recycler un circuit qui est impliqué dans la reconnaissance des objets au départ et des visages, et nous lui donnons des formes nouvelles à apprendre. Alors ces formes ont évolué pour être adaptées à l'organisation préalable de notre circuit. Donc lorsqu'on apprend à lire, en fait, on modifie un circuit qui est juste à côté de l'aire qui reconnaît les visages. Et on reconnaît les mots sous forme de parties qui forment un tout, un petit peu comme on reconnaît un visage. D'abord, il y a certains neurones qui analysent la région des yeux, d'autres neurones qui analysent la région de la bouche. Ces neurones sont assemblés ensemble pour former la notion de visage. Eh bien, on réoriente une partie de cette architecture en direction des lettres. Et la forme des lettres semble particulièrement adaptée à l'organisation de ce réseau de neurones. Si on présente ces lettres même à des singes, par exemple, vous allez voir que déjà chez le singe qui n'a évidemment jamais appris à lire, vous allez trouver des neurones qui sont sensibles à, par exemple, la forme d'un L, c'est-à-dire la jonction de deux traits. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'environnement, dès qu'il y a un objet, un coin de porte, par exemple, autour de nous ici, eh bien ça forme un petit L.
Donc, ça marche pour notre vocabulaire, notre alphabet, mais que penser des écritures qui sont complètement différentes, qui n'ont pas du tout les lettres.
Le chinois, par exemple.
Par exemple.
Eh bien,
le thaïlandais.
Le chinois est formé, en fait, de traits élémentaires. Donc, il ne faut pas s'arrêter au caractère. Il n'est pas si arbitraire que ça, parce que lui-même est formé de traits plus élémentaires qui sont en petit nombre. Pas aussi limités que nos lettres, mais quand même un petit vocabulaire de traits. Et on peut montrer que le cerveau passe par cette analyse. D'abord le trait, la combinaison de traits, le caractère tout entier. Et en fait, ce qu'on est en train de montrer, c'est que l'architecture de la lecture en chinois n'est pas très différente de l'architecture de la lecture en français. Les gens le savent peu, mais en fait, il y a une composante phonétique dans les caractères chinois. Ça n'est pas du tout un idéogramme, c'est un logogramme, c'est-à-dire que ça fait référence à un mot, mais il y a une partie qui est phonétique, qui permet de façon statistique de prédire quelle va être la prononciation du mot en chinois. Et ça n'est pas si différent de l'anglais, par exemple, ou bien sûr, c'est un alphabet, mais là encore, ça n'est que statistique. Si vous avez O, U, G, H à la fin d'un mot, bah vous savez peut-être prononcer le mot, mais vous n'en êtes pas sûr. Il y a encore plusieurs manières de le prononcer. Donc on s'aperçoit en fait que l'architecture de la lecture dans tous les cerveaux est à peu près la même.
Il est important que les élèves ne pensent pas qu'au bac. Il faut parfois faire des petits détours dans des domaines qui ne sont pas forcément dans le programme. Bon, bien sûr, pour obtenir de meilleurs résultats aux examens. Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, bon, qui a besoin à la fois d'être canalisée, mais libérée en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune ?
Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin. Le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous, sur le banc, sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. C'était France Culture, le chemin de la philosophie, il est 10h36, vous avez entendu un extrait du Péril jeune de Clapiche, hein, 1994, la scène devenue culte du prof de maths pendant le conseil de classe, scène embarrassante, disiez-vous Stanislas Devane, c'est vrai, caricature du prof qui dit mais attention, les jeunes, le jeune est plein d'énergie, il faut savoir comment canaliser cette énergie. Et j'y pensais parce que dans votre ouvrage, vous parlez de cette énergie, justement, alors de manière évidemment beaucoup plus sensée, beaucoup moins ironique. Et puis ensuite, j'ai lu un extrait, le début, de l'ouvrage de Proust sur la lecture. Extrait qui me paraît particulièrement intéressant ici parce que ce que dit Proust, c'est qu'une fois l'apprentissage de la lecture effectué, ce que nous retenons de nos lectures n'est pas tant le contenu de la lecture elle-même que les moments pendant lesquels nous avons lu. Comme si au moment où nous lisions, il y avait comme une seconde conscience qui se développait et qui était celle que nous gardions des expériences de lecture.
Oui, et puis c'est simplement la magie de la lecture aussi, le fait qu'on soit à la fois absorbé dans un monde différent, qu'on ait envie d'y retourner. C'est vraiment cette magie-là qu'on a envie d'arriver à donner aux enfants le plus vite possible. Et je pense que c'est extrêmement motivant quand on entend ce texte de Proust qui vraiment nous montre toute cette nostalgie aussi de l'enfance. Je ne sais pas si on est aussi absorbé, et c'est quelque chose que j'aimerais bien étudier au laboratoire, à l'âge adulte. Il me semble pas qu'on arrive dans le même état de profondeur, finalement, de transport lié à la lecture. Et là encore, c'est peut-être une différence avec l'enfance où on est capable de prêter toute son attention, de vivre dans un monde irréel. Je me souviens très bien quand j'ai lu Moby Dick, je sais exactement où j'étais et à quel point c'était passionnant, ou L'île au trésor, bien sûr, ou encore beaucoup d'autres livres. Alors, il faut qu'on arrive à restaurer cette magie de la lecture. Ce que montre la science, c'est qu'on ne peut pas commencer, par contre, par... on ne peut pas espérer que l'enfant va plonger tout de suite dans cette lecture magique. Il faut d'abord lui enseigner le code. C'est un cryptogramme, la lecture. On n'y pense pas assez. Vous voyez, les gens vont visiter au Louvre, voient la pierre de Rosette. Eh bien, ou c'était au British Museum, peut-être, plutôt la pierre de Rosette. En tout cas, on voit cette pierre et on voit des codes qu'on ne sait pas déchiffrer. Eh bien, il faut penser que c'est la même chose pour le petit enfant. Une page de lecture, pour lui, c'est aussi difficile que s'il était Champollion confronté au hiéroglyphe pour la première fois. Il faut lui donner le code. Et ce que montre la recherche, c'est que donner à l'enfant le code dans les premiers 6 mois de l'école, ça va le mettre sur la bonne voie pour tout le reste, y compris la compréhension. On aimerait bien évidemment que l'enfant cesse d'annonner, comme on a entendu tout à l'heure le petit Marcel Pagnol, et qu'il passe plus vite à une compréhension profonde de ce qu'il lit. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette étape initiale. Il faut décoder, automatiser le décodage et passer à ce moment-là une lecture rapide qui permet de se plonger dans le sens. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors, vous savez, je dis ça parce qu'en ce moment, il y a encore énormément de débats sur méthode globale, méthode syllabique. Bon, c'est toujours un peu caricatural, évidemment. Personne n'utilise la méthode globale. Mais un certain nombre d'enseignants aimeraient bien que l'enfant comprenne tout de suite les textes, qu'il comprenne la différence entre une poésie et une recette de cuisine ou un article de journal. Moi, j'ai des manuels scolaires où les premières semaines de l'enfant sont consacrées à
au
ce
CP,
genre de discussion en CP, absolument. C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des restes de méthode globale dans notre réflexion sur l'éducation. C'est-à-dire que on ne se concentre pas assez sur ce qui va être efficace pour l'enfant, tout en ayant tous le même but, qui est évidemment qu'il ait le plaisir de la lecture que nous connaissons.
Est-ce que c'est une manière de... Enfin, ce que vous dites de certaines méthodes de lecture contemporaine rejoint ce que dénonce Rousseau à l'époque. Rousseau, dont on parlera cette semaine, hein, évidemment, dans son Émile ou de l'éducation, il propose une éducation là complètement alternative, puisqu'Émile est élevé loin de l'école, mais aussi loin de la société, loin du sexe opposé, avec un seul précepteur. Il n'apprend à lire et à compter qu'à l'âge de 12 ans, je crois. Il n'a pas le droit d'ouvrir un livre avant. Mais reste que il montre bien que le problème de l'éducation, c'est que les parents et les instituteurs, les professeurs, ne voient pas l'enfant comme un enfant. Ils le voient comme un adulte en devenir et qu'ils ont du mal à se mettre à la place de ce qu'est l'enfant au moment où il veut apprendre à lire.
Ça, je crois que c'est très vrai, et notamment à cause de ce phénomène de perte de conscience. C'est-à-dire qu'on automatise la lecture et on oublie par quelle voie on est passé. On oublie à quel point c'était difficile, non automatique. On oublie même, par exemple, qu'on a dû apprendre à lire de la gauche vers la droite, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut que l'enseignant prenne conscience des mécanismes psychologiques de l'enfant. C'est dans ce sens-là que je milite pour qu'il y ait un petit peu de science cognitive dans les ESPE, c'est-à-dire les écoles supérieures de professorat et d'éducation, d'enseignement, parce que je crois que c'est absolument fondamental de savoir comment la machine fonctionne, en quelque sorte, au moins d'avoir certaines notions. Et je dirais même que pour les enfants eux-mêmes, et en tout cas certainement pour les étudiants, bah, ça n'est pas idiot de se pencher sur les sciences cognitives, parce qu'après tout, il s'agit de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, ça veut dire aussi, aujourd'hui, connaître un peu de sciences cognitives pour savoir comment mieux apprendre, comment mieux étudier. Il y a des choses vraiment pas évidentes. Par exemple, vous savez, les enfants qui passent des jours à réviser sur leur manuel en stabilotant. Alors on marque en vert, en jaune, les phrases importantes. Ça marche pas bien. Et on sait qu'il y a des méthodes beaucoup plus efficaces.
Ça, c'est un peu plus tard, c'est pour les étudiants, oui.
Oui, sauf que beaucoup d'enfants pensent qu'effectivement, j'ai lu la leçon, ça y est, je le sais. Voilà. En fait, la méthode efficace, il y a des expériences vraiment intéressantes là-dessus, ça consiste à alterner des périodes où effectivement on étudie et tout de suite des périodes de test. C'est-à-dire qu'on met à l'épreuve ce qu'on croit savoir. Et lorsqu'on se teste, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses que réellement on ne connaît pas. On n'est pas capable de les produire au bon moment. Alors à ce moment-là, on prend conscience de cette limite et on réétudie précisément ce qui a posé des difficultés. Cette alternance d'études et de tests est optimale, à condition qu'elle soit répétée tous les jours, tous les jours. Là encore, les sciences cognitives ont leur mot à dire. Lorsqu'on réduit le temps scolaire, là je pense qu'il y a un signal d'alarme. La vérité, c'est que le cerveau apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les nuits aussi, comme je l'ai dit. Et donc, la famille doit pouvoir complémenter ce qui est fait à l'école en rajoutant des apprentissages peut-être plus informels.
Donc, il faut plus travailler, vous dites, y compris dans la petite enfance.
Écoutez, travailler pour un enfant, qu'est-ce que c'est que travailler ? Non, c'est jouer. Ça peut être des jeux. Et d'ailleurs, dans le cas des mathématiques, par exemple, les pédagogies les plus efficaces sont celles qui font appel au jeu, et en particulier au jeu de plateau, ou au jeu avec des objets matériels dans lesquels... L'enfant est engagé, ne se rend même pas compte qu'il est en train d'apprendre quelque chose. Mais il apprend à utiliser les nombres, il apprend à utiliser l'espace, il apprend à le mesurer, il apprend les correspondances entre les nombres et l'espace, et c'est le début des mathématiques.
Et c'est là où vous allez faire hurler les puristes, hein, c'est-à-dire que vous prenez dans votre livre l'exemple aussi des jeux vidéo. Une bonne pratique des jeux vidéo permet de développer les capacités qui sont nécessaires à l'apprentissage de la lecture.
En tout cas, le jeu vidéo n'est pas mauvais. Je ne sais pas si, pour la lecture, c'est peut-être pas l'idéal, le jeu vidéo. La difficulté d'ailleurs du jeu vidéo, c'est l'addiction. C'est qu'on y passe beaucoup de temps et ces heures de lecture dont parlait Marcel Proust disparaissent peut-être au profit du jeu vidéo.
Après le débat de savoir si c'est une perte ou pas.
Mais sur le plan cognitif, c'est quand même une chose extrêmement remarquable. Le jeu vidéo, ça vous développe des capacités d'attention soutenue, de précision du geste, de capacité aussi de s'adapter à des situations extrêmement nouvelles. C'est peut-être le plus frappant. Les enfants démarrent un jeu et en quelques minutes, ils ont compris les commandes, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Donc ça, ce sont des compétences qui vont généraliser ensuite à de nouveaux apprentissages en dehors du jeu vidéo.
C'est ça, vous dites, le jeu vidéo, il y a aussi l'apprentissage, la pratique d'un instrument de musique, par exemple. Tout ce qui relève d'une situation qui met l'élève ou l'enfant face à une situation inattendue où il doit tout de suite s'adapter.
Il y a un réseau dans le cerveau qu'on appelle de contrôle exécutif, qui est un système très général qui gouverne les autres, un peu comme le chef d'orchestre, et qui apprend à inhiber tel circuit ou au contraire à exciter tel autre en fonction de ce qu'on demande. Et dans le cas de la musique, effectivement, ce réseau travaille de façon extrêmement forte, parce qu'il faut apprendre à inhiber les mouvements de son corps, par exemple, ne bouger qu'un doigt à la fois, bouger la main gauche séparément de la main droite. Donc le contrôle exécutif se développe, et ensuite cette compétence qui va se développer dans un contexte particulier, comme la musique, va pouvoir se généraliser à d'autres domaines.
Donc en fait, pour favoriser l'apprentissage de la lecture, si on en revient à cette question-là, il faut multiplier les activités d'apprentissage en général. On en revient à la même aspect.
Non, je dirais pas ça. Il faut bien comprendre qu'il y a donc des circuits spécifiques à la lecture, très particuliers, qui vont reconnaître les lettres, les sons, et c'est ceux-là qu'il faut entraîner au premier chef. Puis il y a cette faculté plus générale, capacité de faire attention, de se concentrer, qu'il faut aussi être capable de développer et qui va s'appliquer bien au-delà de la lecture.
Ce que vous appelez l'attention.
Oui. Il faut les deux, et je pense, moi je milite pour un enseignement structuré, c'est-à-dire que on introduit les compétences nécessaires à la lecture dans le bon ordre, en commençant par les plus simples jusqu'aux plus compliqués. Dans le petit livre qui s'appelle Apprendre à lire, il y a un appendice qui décrit, sur la base des statistiques du français, ce que nous pensons être les lettres par lesquelles il faut commencer l'apprentissage, et c'est très progressif, et à chaque fois on vous donne les mots que vous pouvez utiliser, ou quelques mots, quelques exemples de mots que vous pouvez utiliser uniquement avec ces lettres et ces graphèmes, donc combinaison de lettres, appris à la leçon N, puis N plus 1. Les bons manuels, je crois, ne demandent pas à l'enfant de deviner des mots avec des lettres qu'il n'a pas encore apprises. Ils n'utilisent que les lettres qui ont été connues, qui ont été enseignées explicitement.
Voilà. D'autant que vous dites que chez les tout petits enfants, il y a certaines lettres qu'ils ne peuvent pas vraiment distinguer. BD, je crois qu'elle
est dans un côte à côte. Ah oui, alors ça c'est une difficulté particulière, oui, qu'on a beaucoup étudié, c'est la lecture en miroir, l'écriture en miroir. Et j'étais moi-même très inquiet parce que l'un de mes enfants a commencé effectivement à écrire son nom en miroir et confondre les B et les D. En fait, on s'est aperçu
que... miroir, c'est qu'on inverse symétriquement.
Oui, en général, c'est une symétrie droite-gauche, donc on va confondre B avec D particulièrement et P avec Q. Voilà. Mais il peut y avoir des confusions verticales aussi un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est le fonctionnement strictement normal du cerveau, en fait. Donc, je peux rassurer les parents chez qui ça arrive. En fait, c'est toujours cette histoire de recyclage neuronal. On va utiliser, pour reconnaître les lettres, un circuit qui a évolué pour reconnaître des objets et des visages. Quand vous reconnaissez un visage, vous l'avez peut-être vu la première fois sous son profil gauche, vous le voyez sous son profil droit, vous dites c'est la même personne. Votre circuit à cette invariance qui est déjà présente. Et elle est présente bien avant d'apprendre à lire, probablement chez les enfants tout petits. Peut-être même dans la première année de vie, selon certaines expériences. Donc, c'est une vraie compétence du cerveau, reconnaître qu'il s'agit de la même personne sous deux angles différents. Maintenant, vous arrivez avec la lettre B, et l'enfant dit « c'est la même chose que D », il ne voit pas. Et c'est encore cette notion d'illusion visuelle, il ne voit pas qu'il y a une différence. Et il est prêt à le jurer. J'ai testé même des adultes illettrés qui n'ont pas appris, ils disent « c'est la même chose, c'est pareil ». Alors, il faut apprendre, et le tracé de la lettre avec la main peut aider, parce qu'évidemment quand on trace la lettre, on apprend le geste, ce n'est pas le même geste pour faire un D et pour faire un B, on comprend que ça n'est pas la même chose. Beaucoup de recherches montrent que apprendre à écrire facilite l'apprentissage de la lecture. Sans doute pour cette raison, peut-être pour d'autres encore, parce que notre mémoire est stimulée par un code supplémentaire, un code moteur qui aide à retenir les lettres. En tout cas, la recherche est extrêmement claire sur ce sujet. Donc, apprendre à écrire, faire des lignes de lettres, des lignes de mots, ça n'est pas du tout du temps perdu pour la lecture.
Et un cerveau qui sait lire ne ressemble pas à un cerveau illettré?
Alors ça, on l'a très très bien montré, c'était une des grandes recherches du laboratoire. On a pu comparer des personnes adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et puis des personnes comme vous et moi qui sont allées à l'école, puis encore d'autres qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont appris à lire tardivement. Et donc, par ce biais-là, on a pu faire une carte de l'ensemble des circuits du cerveau qui sont modifiés par l'apprentissage de la lecture. Et on a vu qu'effectivement, que même l'anatomie du cerveau est modifiée par l'apprentissage de la lecture. Il y a un faisceau de connexion qui relie les graphèmes aux phonèmes, les lettres avec les sons, en tout cas c'est ce qu'on croit, est plus développé, a une myélinisation plus importante. C'est-à-dire que vous savez que les axones sont entourés de gaines de myéline qui sert d'isolant. C'est ça qui permet aux axones donc de communiquer rapidement les impulsions nerveuses d'une région à l'autre. Eh bien, il semble bien que la lecture augmente cette rapidité de transmission des informations. Donc, c'est vraiment un circuit bien identifié maintenant qu'on utilise pour apprendre à lire. Et les données neurobiologiques rejoignent totalement les données sur la pédagogie qui montrent que plus on se focalise sur l'enseignement qui va modifier ce circuit-là, l'apprentissage des correspondances entre graphèmes et phonèmes, eh bien plus on va aller vite dans l'acquisition de la lecture.
Comment vos recherches, vos résultats de recherche sont-ils reçus par les équipes pédagogiques, par le milieu de l'école et de l'enseignement?
Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés, notamment parce qu'ils sont conscients dans le milieu enseignant de ne pas avoir reçu une formation suffisante. C'est vraiment, il y a un problème de formation dans l'éducation nationale. Je crois que tout le monde en est conscient. Mais donc voilà, souvent il y a une réponse des sciences cognitives qui est assez intéressante et bien reçue. Il y a évidemment de la contestation sur des bases idéologiques aussi parfois, mais il y a de plus en plus de convergence. Je sais par exemple que on cherche à opposer mes travaux avec ceux de Roland Guagou, qui a réalisé des études intéressantes dans le domaine pédagogique. En réalité, dans une enquête très récente, Monsieur Guagou montre très clairement que ce sont les classes qui concentrent dans le premier trimestre l'enseignement des correspondances entre graphèmes et phonèmes, qui en enseignent beaucoup, qui sont les classes qui vont aller le plus vite et qui vont avoir les meilleurs résultats à la fin de l'année en lecture. C'est un des facteurs fondamentaux qui est identifié à nouveau dans cette étude. Donc, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et personne ne dit, par exemple, qu'il faut opposer apprentissage du décodage et apprentissage de la compréhension. En réalité, le décodage est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il est vrai que si vous savez juste décoder, vous ne comprenez pas nécessairement ce que vous dites. Pour comprendre, il faut avoir le vocabulaire. Il faut donc enrichir aussi le vocabulaire des enfants.
Donc votre école idéale, l'autre école qui serait possible et que vous pouvez appeler de vos voeux, Stanislas Dehaene, elle ressemble à quoi? Il y a l'introduction des recherches neurobiologiques dans le milieu pédagogique?
Ce serait une école dans laquelle les enseignants sont bien formés à tout ce qu'on vient de dire. Ce serait aussi une école dans laquelle on respecte plus la compétence extraordinaire de l'enfant. Et donc on pense à l'enfant. L'enfant est au centre des choses. On se concentre sur la manière dont on va pouvoir le faire progresser chaque jour un petit peu plus. Je crois que notre école y ressemble un petit peu, mais le matériel pédagogique est-il le mieux conçu du monde? La formation des enseignants est-elle la meilleure du monde? Je ne crois pas. Bon, les enquêtes internationales, malheureusement, le montrent. On n'a pas de raison d'être extraordinairement fiers de notre école. Je rentre de Taïwan et je suis allé aussi à Singapour. Vous savez que Taïwan, Singapour, Shanghai ont les meilleurs résultats du monde dans les enquêtes internationales. Eh bien, à chaque fois que j'y vais, je suis étonné de voir à quel point ils sont préoccupés de leur système. Et ils essayent de faire encore mieux. Ils détectent, par exemple, quels enfants sont dyscalculiques, comment faire. Ils connaissent les sciences. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont de si bons résultats.
Bon, il faut peut-être dire au revoir à une autre école alors qu'était l'école de Bourvil, écoutez.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme. Géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh, quel programme! Malgré le temps qui s'envole.
Un grand merci à vous, Stanislas Dehaene, d'être venu nous parler de votre travail aujourd'hui.
Merci.
C'est un plaisir de discuter avec vous et de vous entendre parler des résultats de vos recherches. Je renvoie à la lecture de Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe et chez Odile Jacob. Tous vos livres d'ailleurs sont chez Odile Jacob. La bosse des maths également, ou Le code de la conscience. On en a rapidement parlé. Je rappelle que vous êtes titulaire d'une chaire au Collège de France. Donc on peut entendre vos cours qui sont d'ailleurs souvent disponibles en ligne. De la Boom 2 à Bourvil, on est vraiment à la pointe de l'actualité pédagogique sur France Culture.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
À 10h54 sur France Culture, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mesnin-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors comme tous les jours, vous nous parlez d'une actualité qui a lié, qui a trait à la philosophie. Avec quoi vous commencez cette semaine?
Eh bien pour commencer la semaine, Adèle, je vous propose d'aller au théâtre. Et pour voir jouer un texte magnifique, c'est La Chute d'Albert Camus. Et pour voir jouer un comédien que vous connaissez, Adèle, que les auditeurs des chemins de la philosophie connaissent, c'est Yvan Morane, très familier de ce texte de Camus, La Chute, qu'il ne joue d'ailleurs pas pour la première fois, et qui est toujours autant fasciné par la question que Camus y soulève.
très jeune, j'ai été toujours fasciné par cette question de la culpabilité et de la lâcheté, et de la liberté, bien sûr. Évidemment, plus j'ai avancé en âge, plus j'ai eu ma propre analyse de ce qu'était la lâcheté, la culpabilité, le jugement des autres et celui qu'on portait pour éviter celui des autres. Donc c'est autour de ces questions que j'ai vraiment eu envie d'incarner ce personnage.
Lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau, je m'arrêtai net, sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri plusieurs fois répété qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement.
C'est dans un bar d'Amsterdam que toute l'action se noue sur la scène, dans le texte, un seul personnage, Jean-Baptiste Clamence, qui nous déroule le bouleversement de son existence petite bourgeoise causée par la noyade d'une femme qu'il n'a pas tenté de sauver. Et c'est dans ce seul monologue, publié en 1956, qu'Albert Camus nous enferme, sans information extérieure, au cœur d'une existence traversée donc par la question de la culpabilité, mais traversée aussi, et c'est ce qui fait toute la beauté de la langue de Camus et l'enjeu de son interprétation, par l'absurde.
Buvant le jour d'absinthe qui se lève, ivre enfin de mauvaises paroles, je suis heureux, je suis heureux, à mourir.
L'expérience que j'ai en jouant La Chute est très nouvelle pour moi au théâtre, alors que ça fait plus de 40 ans que je joue au théâtre, mais je n'ai jamais vécu cette chose-là, qui est d'avoir l'impression, au moment où je rentre en scène, chaque soir, de ne pas savoir ce qui va se passer. Parce que la traversée des mots, je ne dis pas elle est différente tous les jours, mais elle dépend vraiment, en cela c'est vraiment du théâtre au sens strict, les mots vous traversent en fonction de l'état dans lequel on est ce jour-là. Et ça, c'est extraordinaire pour un comédien d'avoir la chance de jouer une langue, d'incarner un personnage qui vous surprend chaque jour.
Si jouer La Chute revient alors à prendre le risque chaque soir de jouer, interpréter dans tous les sens du terme cette chute, comment l'interpréter ? Faut-il voir la vanité du monde et l'absurdité de chaque existence contenue dans ce seul titre, dans tout ce monologue ?
Cette chute, elle est intérieure, mais elle est comme dans un cauchemar, c'est-à-dire que soit elle n'a pas de fond, soit on se réveille avant d'atteindre le sol. Ce n'est pas réellement une chute dont on meurt, c'est une chute avec laquelle on rebondit dans la vie. Et je trouve que c'est ça qui est formidable chez Camus en général et dans ce récit en particulier, c'est-à-dire qu'il y a toujours la lumière chez Camus, cette lumière de la Méditerranée, cette lumière de l'Algérie, cette lumière qu'il aimait tant. Il y a la vie, et Clamence, malgré tout, je dis bien malgré tout, aime la vie.
Je suis la fin et le commencement. J'annonce la loi. Je suis juge pénitent.
Il faut donc aller voir cette chute, La Chute adaptée du texte de Camus par Catherine Camus et François Chaumette dans une mise en scène de et avec Yvan Morane. C'est au théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 14 octobre, du mardi au samedi.
Merci Géraldine de nous parler de ce spectacle que j'ai trouvé inoubliable pour ma part. Allez voir Yvan Morane au Lucernaire. Vous avez donc jusqu'au 14 octobre, je pense qu'on peut avoir toutes les informations en ligne, on les mettra sur le site du Chemin de la Philosophie. Merci Géraldine et à demain. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeuren, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, et Anthony Thomasson qui était à la prise de son, ça rime. À demain pour la suite de notre série Pour une autre école. Demain, nous parlerons de Fernand Deligny et de son éducation en marge en compagnie de Marlon Miguel. Nous sommes presque en retard sur France Culture, je vais donc rendre l'antenne. Jusqu'à midi, vous retrouverez Olivia Gesbert et à 11h, ce sera Florian Delorme. Restez à l'écoute sur France Culture.